Bon, on va commencer, hein, même malgré la foule en délire, on va quand même commencer cette conférence sur les particules fines et nanoparticules. Je n'ai que deux invités, Monsieur Mifsud et Monsieur Chomel. Bonjour. Bon, on va commencer par Monsieur Mifsud. Quelques mots déjà sur la société Elona, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. La société Elona développe donc des objets connectés qui permettent de mesurer toute une série d'émissions environnementales, les gaz, la vibration, mais bien sûr aussi les particules, et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. D'accord. Avec des données qui remontent effectivement dans le cloud, mais j'en dirai un peu plus dans quelques minutes.
Chomel, excusez-moi.
Moi, je représente la société Systech. Donc, à la base, on est distributeur dans l'analyse de gaz. Et donc plus récemment, on travaille aussi donc dans l'analyse de gaz, donc dans différents milieux, que ce soit pour l'industrie, pour l'air ambiant. Et là, plus récemment, on travaille aussi avec des fournisseurs donc pour le comptage de particules, que ce soit des particules donc ultra fines ou des particules fines, donc entre le nanomètre et quelques dizaines de micromètres.
Alors peut-être une question néophyte. Pourquoi on en parle de plus en plus les particules fines et les nanoparticules? Parce que déjà fines, pour moi, c'est très petit. Il y a encore plus petit. Donc, pourquoi on a besoin de savoir ce qu'il en est aujourd'hui, de faire un suivi?
Clairement, les particules participent à toute une série de maladies professionnelles ou pour chacun d'entre nous, notamment par le colmatage des alvéoles. Simplement, aujourd'hui, au-delà des problématiques d'asthme, de respiration, de bronchite chronique, aujourd'hui, un certain nombre de particules sont déclarées carcinogéniques depuis janvier 2021, notamment la silice alvéolaire. Et donc, et là, on est dans le nanoparticule, donc on va descendre en dessous du PM1, on va descendre à du 0,3, voire du 0,1, de façon à pouvoir analyser ce qui est un impact encore plus important sur la santé des compagnons, notamment sur les sites de construction ou les mines.
M. Chomel, même vision du monde là-dessus.
Oui, par exemple, en 2016, il a été recensé plus de 4 millions de décès prématurés dus aux particules. Après, donc c'est vrai qu'on a différentes tailles de particules et en fonction donc des tailles de particules, on va avoir différents aspects sur la santé, mais aussi sur les émissions et sur la pollution atmosphérique.
D'accord. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? On va commencer par vous, Monsieur Mifsud.
Peut-être que je vais m'imposer alors en présentant quelques diapositives de façon un peu générique sur le sujet. Voilà, je crois que c'est là. Voilà. Alors, hop.
C'est bon. Enfin, on les voit en tout cas.
C'est bon, superbe. Superbe. Bah, écoutez, je pense que fondamentalement, il est important de revenir à un certain nombre de sujets fondamentaux, notamment sur les particules et notamment dans l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir fournir trois types de résolutions. Autour notamment des mesures des émissions environnementales et particulièrement des particules. Ces résolutions sont fournies par les objets connectés, c'est-à-dire premièrement une résolution spatiale, c'est-à-dire de pouvoir en mettre partout et non plus porter des échantillons au laboratoire pour les analyser, de pouvoir fournir cette mesure là où une décision doit être prise. Donc ça, c'est la première mission des objets connectés. Deuxième mission, c'est la capacité d'avoir une résolution temporelle. Non plus avoir des rayons X, non plus avoir de la gravimétrie, etc. Et ce n'est pas du tout incompatible, mais c'est de pouvoir avoir une analyse en quelques secondes. Donc de pouvoir voir un puff de poussière, de pouvoir voir un événement qui est temporellement extrêmement résolu. Troisième objectif, c'est une résolution qualitative. C'est non plus, eh bien, j'ai du PM1 et j'ai tant de PM2.5 ou j'ai tant de PM0.3, mais c'est quelle est la nature de cette particule. Est-ce que c'est de la silice alvéolaire, du plâtre, du ciment, du trafic routier? Parce qu'effectivement, un site de construction qui va se retrouver au centre de toute une série d'émissions, on va taper sur les uns et sur les autres sans aucune nature qualitative. Et donc de remonter à cette empreinte particulière. Donc on va s'attacher, nous, à fournir toute une série de systèmes de mesure qui vont effectivement être proches de la source, proche du chantier, proche de la mine, proche de du trafic routier, de façon à fournir une donnée quantitative et une donnée qualitative. Donc on a des systèmes que l'on appelle des WT1 qui vont utiliser une technologie qui n'est pas certifiée, puisqu'aujourd'hui, les méthodologies certifiées dans le domaine de la particule sont des mesures gravimétriques. On va donc peser avec des filtres, etc. Donc, une technique assez classique. Ce que l'on fait pour les analyses de particules aujourd'hui, c'est une analyse par diffraction laser. Donc, on va mesurer cette diffraction en fonction de la taille des particules et ainsi en déduire une extrapolation, bien sûr avec le biais de la masse volumique, puisqu'on va avoir des diffractions qui peuvent être par des particules de même taille, mais pas de même poids. Donc, effectivement, une divergence par rapport à la gravimétrie et la mesure gravimétrique. Et donc, on va analyser cela en temps réel en faisant remonter, je vais vous montrer ça, je vais passer rapidement, des chantiers, des sites de mines, ces données en temps réel vers une plateforme. Alors, ces objets vont analyser en temps réel, vont aspirer ces poussières, vont les faire passer devant ce faisceau laser qui va diffracter et va permettre d'avoir ainsi une idée quantitative, mais surtout qualitative. Et je vais y revenir en quelques mots. Donc, ces systèmes vont descendre jusqu'à de la taille de 0,3 microns, voire 0,1 microns, notamment utilisés souvent dans les salles de chirurgie, aujourd'hui pour les salles propres, notamment pour les maladies nosocomiales, puisqu'on sait qu'effectivement, un certain nombre de maladies nosocomiales se vectorisent par l'intermédiaire des particules dans l'air. Et donc, on va retrouver effectivement dans les aérations, notamment sur les aspergillus, sur la légionellose, une dispersion beaucoup plus forte quand le niveau particulaire est élevé.
Ça, c'est l'hôpital Pompidou, ça.
Ben, de la légionellose. Notamment, mais c'est une problématique particulièrement dans les environnements à très forte humidité, à très forte contamination particulière qu'on va retrouver à Mayotte, qu'on va retrouver dans les dom-toms notamment, où effectivement le niveau d'humidité et le niveau particulière présent va favoriser cette dispersion.
Alors, et donc, une question, est-ce que ça fait appel à ce qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire faire une analyse au plus proche de la source? Alors, et après, ça remonte. Il y a déjà une analyse qui est faite sur place, et après, ça remonte à d'autres systèmes beaucoup plus puissants d'analyse.
Alors, exactement. Le edge, en fait, c'est juste que le traitement de données se fait au niveau de l'instrument.
Absolument.
En fait, dans les objets connectés, vous avez deux approches stratégiques. C'est soit vous traitez directement sur la machine et vous communiquez le résultat, soit vous envoyez les données brutes dans le cloud, et à ce moment-là, le traitement de données se fait dans le cloud. C'est un peu ce que nous faisons. On remonte les données brutes que l'on va traiter dans le cloud et effectivement avoir des suivis de PM05, PM03 jusqu'à PM40. Donc on va pouvoir travailler aussi sur des aérosols de façon à avoir une visualisation complète des sites, que ce soit des sites encore une fois de construction ou de mine. L'intérêt pour conclure, c'est au-delà de la visualisation des systèmes de cartographie. Donc, je vous montre ce que l'on a fait sur Shanghai. Là, sur les PM2.5, on a 250 systèmes qui cartographient la totalité de la ville et qui donc permet d'aller identifier soit sur des systèmes postés, sur les lampadaires, sur le mobilier urbain, comme les abribus, soit sur des systèmes transportés, puisqu'on va les avoir aussi sur des taxis, sur des bus. Le système va donc compléter cette mesure cartographique et va donc permettre de remonter des données de gaz, bien sûr, d'odeur aussi, et grâce à notre technique de reconnaissance d'empreintes, aussi sur des particules. Et donc là, sur ce graphique qui est extrêmement important, on voit qu'il y a des points chauds, en orange, en rouge, au niveau quantitatif en particules. Mais est-ce que c'est important? Eh bien, moi, je pense fondamentalement que la mesure sans remédiation n'est que ruine de l'âme. Et donc, en fait, il faut aller vers l'action. La mesure sans action est anxiogène.
C'était ma question d'après, ça.
Elle n'est qu'anxiogène. Donc, si je n'ai pas les moyens d'agir, et particulièrement d'agir en temps réel, c'est qu'on sache qu'il y a du PM2.5 ou du PM10, si on est coincé comme ce matin dans les embouteillages, eh bien, malheureusement, on le subit. Et donc, l'idée, elle est de se dire, mais comment je peux agir? Je peux agir uniquement si je contextualise, c'est-à-dire si je suis capable d'identifier la source. Et pour cela, il y a deux moyens. Il y a le moyen physique, c'est-à-dire avoir des rétropropagations. J'utilise des systèmes de diffusion et je remonte physiquement à la source de l'émission de particules. Il y a une deuxième approche qui est l'approche chimique, c'est-à-dire, ou l'approche de traitement de données, c'est-à-dire reconnaître la répartition de ces particules et donc leur empreinte, et de pouvoir dire ici non plus, tiens, j'ai du PM2.5, ça doit être le trafic. Non, c'est la cimenterie. c'est la coquerie, c'est le site de construction. Parce que les profils particuliers sont extrêmement différents. Et donc, toute l'idée que l'on essaye de partager aujourd'hui avec nos collaborateurs et puis surtout nos clients, c'est de pouvoir se dire, au-delà de la mesure, comment je peux vous aider à effectuer de la remédiation. Voilà, donc j'ai un petit exemple, mais je vais passer la parole à mon collègue.
Toujours une question, c'était celle d'après.
Bien sûr, mais je vais vous montrer comment ça se met en place sur des sites de construction, etc. Voilà.
Je vous pique le...
Bien sûr,
pardon. Allez.
Moi, je vais prendre la suite, mais c'est bien parce que ça va être un peu un complément, puisque là, c'était plutôt sur les particules fines, et moi, je vais parler plutôt des nanoparticules. Donc, ça permet de faire un...
Alors, une nanoparticule, c'est 1000 fois plus petit qu'une microparticule.
C'est ça.
Ça peut être très gros. Hein.
Donc, ouais, les nanoparticules, on considère qu'on est dans une nanoparticule en dessous de 100 nanomètres. Ça veut dire que les trois dimensions sont en dessous de 100 nanomètres.
D'accord, ok.
Donc, bon, on en a déjà parlé un petit peu de pourquoi est-ce qu'on mesure les particules. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une question de santé, une question de changement climatique aussi. Et aussi, aujourd'hui, on a beaucoup de normes vis-à-vis de l'automobile aussi. Et donc, des nouvelles normes, par exemple, Euro 7, qui devrait arriver dans les prochaines années. Ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard.
Bon, bah, allez-y, sinon, à la suite de votre discours, vous pouvez y aller. Hein,
Donc, en fait, aujourd'hui, de plus en plus, à la suite donc, des émissions, donc, des gaz d'échappement et des poussières de frein, on regarde les particules de plus en plus fines. Et donc là, les normes Euro 7, elles vont être encore... Donc, là, aujourd'hui, on est sur la norme Euro 6, donc pour les véhicules actuels. On était sur la norme Euro 5 sur les véhicules un peu précédents. Et à la suite, donc dans les années... d'ici environ 2025, on prévoit la norme Euro 7, qui est vraiment beaucoup plus... plus stricte à différents niveaux. Mais pour l'instant, c'est encore... On est encore... même les constructeurs automobiles n'arrivent pas à se conformer à cette norme-là, pour le moment.
Déjà 2035 pour la fin du moteur thermique... On voit le résultat. Donc, allez-y, je vous laisse parler.
Et donc, alors, Airmodus, donc, c'est une société qui est finlandaise. Donc, on est distributeur exclusif pour la France de ces technologies. Et ils conçoivent donc des compteurs de particules donc, ultra fines, allant de 1 nanomètre jusqu'à 2,5 microns. Donc, concrètement, on a plusieurs modèles. Le premier modèle qui va être dédié vraiment à la recherche, donc je vais développer un peu plus sur celui-ci, qui permet de descendre jusqu'à 1 nanomètre de diamètre. Donc c'est vraiment aujourd'hui la seule technologie qui permet de faire du comptage en temps réel avec cette méthode-là. Et on va même pouvoir faire de la granulométrie entre 1 et 4 nanomètres. Ensuite, on a des modèles qui sont plus dédiés à l'émission véhiculaire, donc qui sont conformes avec les normes Euro 5 et Euro 6 aujourd'hui, et qui sont aussi en certification pour les normes Euro 7. Et enfin, on a aussi des appareils pour la surveillance ambiante, puisqu'il y a aussi des normes... De rejet donc va dire dans l'atmosphère, même si on a beaucoup des normes pour les particules fines, donc les PM2.5 et PM10, des normes arrivent aussi pour tout ce qui est particules, les nanoparticules, et donc il faut aussi pouvoir se conformer aux normes CEN par exemple, des choses comme ça. Donc concrètement, comment ça fonctionne un compteur de particules ultra fines? Donc on peut pas mesurer, donc comme on est sur des gammes de taille qui sont très petites, c'est pas possible de mesurer directement par diffraction optique. Donc on va être obligé de faire grossir les particules. Et pour cela, on utilise donc la condensation. Donc on va d'abord avoir un saturateur. Donc ici, on utilise le butanol. Donc on a un butanol qui est sous forme gazeuse donc au début. Et ensuite, on va le faire refroidir afin qu'il se condense autour des particules pour les faire grossir. Et après, simplement donc avec un comptage optique, on va pouvoir justement déduire donc le nombre de particules. Il faut savoir qu'avec cette méthode, on va pas être capable de faire de la granulométrie, mais simplement du comptage. Et c'est dans cette optique-là que le A11 donc, a été développé, justement pour pouvoir faire de la granulométrie donc, à très faible, avec des diamètres très faibles, puisque aujourd'hui, donc, quand on couple les compteurs de particules avec par exemple des SMPS donc, qui permettent de faire de la granulométrie, on va pouvoir travailler entre 5 nanomètres et plusieurs microns.
SMPS
SMPS, ce sont des...
Je suis désolé, hein, mais j'aime bien savoir...
C'est en fait, c'est des classificateurs, donc c'est de la comment on appelle ça, de la mobilité électronique. En fait, ça permet de classifier par gamme de taille par la mobilité électronique.
Okay.
Et ils sont très performants à partir de 5 nanomètres, mais en dessous, on n'arrive pas à savoir donc vraiment on n'arrive pas à savoir la granulométrie. Et dans la recherche, il y a beaucoup de recherches qui sont faites à partir justement de 1 nanomètre. C'est pour ça que le système donc a été développé pour pouvoir faire donc la complémentarité et pour pouvoir avoir donc un appareil qui puisse tout faire. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, si vous voulez. C'est le même principe que sur le compteur de particules simple. Néanmoins, au lieu de... Donc là, on va avoir le compteur de particules qui va être à la fin. Et donc, on va avoir donc, nos particules qui vont arriver donc, dans notre premier instrument. Et là, on va utiliser du diéthylène glycol. Donc, c'est un autre composé. Et avec le débit, donc avec un débit, donc des débits connus, on va pouvoir justement faire aussi de la granulométrie et faire grossir les particules dès un nanomètre.
D'accord.
Donc, voilà un petit peu...
les bases. Alors... une fois qu'on a toutes ces données, on va revenir sur ce que, les deux personnes, sur qu'est-ce qu'on fait. Shanghai, je veux bien, parce que la Chine, je pense que c'est un peu pollué, mais bon, il n'y a pas que chez eux. Vous avez également un service de consultants qui vont dire, faut agir là, ou c'est le client, débrouillez-vous pour faire baisser les particules. Mais,
disons que la première étape est d'identifier la source. Oui. Et la source, elle est non pas pour la culpabiliser, mais pour la responsabiliser. Et donc, on va remonter à cette source sur la cimenterie, encore une fois, ou sur la coquerie, de façon à pouvoir les accompagner dans un système de remédiation. Il existe des systèmes de remédiation à l'émission sur les sites industriels, que ce soit sur les sites industriels ou les sites portuaires. Il est plus difficile sur les sites aéroportuaires et sur les sites, effectivement, où le trafic routier est important. Malheureusement, la remédiation est extrêmement faible. Il existe des remédiations basées sur des systèmes de filtration qui vont être d'ailleurs mises en place dans Paris 2024 pour filtrer l'air, notamment au-dessus du village olympique, etc. Donc, c'est des systèmes de filtration qui sont déjà en place sur des tests assez probants. Et puis, il y a des systèmes de brumisation. Donc, effectivement, ça a été mis en place à Shanghai, où on va rabattre les particules par brumisation. C'est déjà en place sur les mines, sur un certain nombre de sites de construction. D'ailleurs, de façon parfois abusive, où on va utiliser de l'eau et de l'énergie de façon importante. Donc, comment les accompagner à réduire aussi cette empreinte énergétique? Mais il existe des systèmes de remédiation. Ce n'est pas dans tous les cas, mais en tout cas, dans les sites industriels qui sont en tout cas notre focalisation, il existe des systèmes de rabattement, de condensation de ces particules.
Alors, l'histoire des aéroports, c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre ensemble les compagnies aériennes pour qu'elles réduisent les freins, par exemple, ou la pollution du kérosène ou...
Alors, plusieurs soucis au niveau de l'aéroport, c'est la logistique des avions, mais il est clair qu'au niveau aujourd'hui de l'effort à effectuer, c'est au niveau de la motorisation.
D'accord.
Et donc, la motorisation et du dégazage, parce qu'il y a énormément de dégazage à l'atterrissage dans certaines choses, on ne le sait pas, mais il y a... des centaines de tonnes de kérosène qui sont vaporisées sur tous les aéroports avant l'atterrissage.
Donc Rolls-Royce ne veut rien faire.
Si. Notre actionnaire est aussi Airbus, nous avons Airbus comme actionnaire, donc je ne vais pas me permettre de... Mais il y a des gros, très gros efforts aujourd'hui, bien sûr dans la carburation décarbonée, notamment avec l'hydrogène, voire l'ammoniac, mais aujourd'hui on a encore deux bonnes décennies devant nous, avant d'y arriver. Et effectivement, l'effort principal est au sol, d'accord, c'est-à-dire dans la logistique entre l'atterrissage et le jetway. Il y a effectivement des systèmes électriques aujourd'hui, notamment au niveau du train d'atterrissage, qui permettent à l'avion d'avancer avec un moteur électrique plutôt qu'avec la motorisation.
C'est un peu comme les bateaux aujourd'hui, où lorsque un gros paquebot arrive et dégaze en arrivant, on arrive maintenant à les fournir en électricité pour que lorsqu'ils sont au port... ils utilisaient plutôt que dégazer leur...
C'est absolument clé, puisque aujourd'hui, notamment à Venise, à Trieste, notamment à la Guadeloupe, où il y a énormément de bateaux de croisière qui, effectivement, gardent leur moteur allumé toute la journée. Les passagers descendent, visitent l'île et remontent.
Venise, ils n'ont plus le droit. Autant que je me souviens.
Absolument, c'est arrêté. Mais effectivement, il faut qu'ils se branchent aux batteries. C'est la même chose pour les engins, les aéronefs. Quand les aéronefs ne sont pas au jetway, il n'y a pas de possibilité de se mettre sur des batteries et donc ils gardent les moteurs allumés. Donc, effectivement, il y a une logistique à améliorer et on pense pouvoir économiser entre 3 et 5 % des particules émises par les aéroports par une meilleure gestion au sol. Maintenant, l'effort principal va être sur la motorisation pour les aéroports, très clairement. Et pareil sur les bateaux, les tankers et sur la carburation des tankers.
Absolument. Même constat, qu'est-ce qu'on fait
Alors, donc avec ces solutions-là, et même en complément avec, par exemple, les mesures pour les particules fines, il va y avoir aujourd'hui donc, le réseau Atmo, donc c'est un gros réseau français qui mesure la qualité de l'air donc, de partout en France. Il y a différentes agences, donc sur Paris, c'est Air Paris, par exemple. Donc, ils font des cartes, justement, avec la modélisation donc, des particules fines et ultra-fines. Et donc, à partir de cela, ils vont pouvoir justement émettre différents niveaux donc, de pollution. Ça va être en complément donc, des différents polluants qui vont être mesurés, tels que le CO, l'ammoniac, le CO2, le méthane. Et justement, après, il va y avoir des mesures qui vont pouvoir être prises, déjà, sur les, par exemple, sur la circulation, en réduisant les vitesses. Ou, bon, c'est des choses qui ne sont pas forcément... On a des résultats qui sont assez contrastés à ce niveau-là. Mais on espère que par la suite, il y ait des vraies mesures qui puissent être prises en fonction des différents polluants qu'on ait. Et l'avantage donc, de cette cartographie, c'est que comme ils ont différentes stations, on va pouvoir aussi chercher vraiment la source du problème. Et donc là, c'est pour ça qu'ils travaillent en accord avec certaines industries, justement pour aller faire des mesures auprès des industries, pour vérifier donc, à quel endroit on peut émettre, et vraiment pouvoir cibler les fuites aussi.
Mais chez Systech, vous avez un service d'aide aux clients pour réduire leur pollution ou avec des conseils des filtres, enfin peu importe. Mais
alors oui, en fait, on travaille aussi beaucoup dans l'industrie, donc en fait on a des procédés qui permettent d'améliorer le process du client.
D'accord.
Donc on a eu des retours là-dessus, c'est sur le fait qu'on a une économisation donc des ressources et donc justement des rejets aussi. Donc c'est pas forcément au niveau des particules, mais par exemple au niveau des gaz. On va essayer d'avoir un process qui sera beaucoup plus propre et donc de pouvoir éviter donc de rejeter plus de polluants.
C'est une constatation mondiale ou c'est plus dans les pays industrialisés qu'on fait attention aux particules ou sans être méchant, mais en Afrique, tout le monde s'en fout. C'est un peu simpliste comme raisonnement, mais bon, j'en suis pas loin. Ou c'est une prise en compte occidentale, entre guillemets.
En fait, il faut quand même regarder les choses. C'est que la qualité de l'air, et en tout cas environnementale, sur notre pays, s'est très fortement améliorée depuis les années 70. Mmh. Bon, maintenant, pas suffisamment. Il nous faut poursuivre, comme vous le mentionnez, sur le nombre de morts. Mais effectivement, c'est une problématique mondiale. Aujourd'hui, il faut le savoir, à New Delhi, c'est 19 000 morts tous les jours, dus aux particules fines.
Tous les jours.
Et puis des certaines activités comme lors du Diwali par exemple, où on fait éclater toute une série de pétards, la ville est restée à 10 fois le niveau maximum de l'OMS pendant une dizaine de jours, tellement il y avait de particules dans l'air, malgré les actions du gouvernement pour éviter ce type de fait. Mais les particules sont un vrai problème. On le voit sur Grenoble, sur les personnes qui se chauffent au bois.
Grenoble, c'est donc, une cuvette de toute façon. Ouais. Donc Air Liquide, ils sont très contents.
Mais hein. Pas seulement, ça se passe sur l'île aussi, de façon à pouvoir, je dirais, accompagner aussi une transition énergétique. On voit les efforts faits sur les ZFE, sur les zones à faible émission, de façon à pouvoir circonvenir aussi dans les villes à des véhicules qui soient moins polluants, aussi bien d'un point de vue gaz que d'un point de vue particulier. Donc il y a des efforts qui sont en place, plus au niveau organisationnel que coopérationnel. C'est réellement une organisation globale, mais ça avance. Mais il faut de la mesure, parce qu'on ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer.
Ça, j'en discute pas. Hein. Mais s'il faut encore 20 ans pour arriver à quelque chose qui soit à peu près constatable...
Non, il y a des progrès. Il y a des progrès, effectivement. Il y a beaucoup de messages très alarmistes, et c'est le cas. Il y a une véritable souci et une nécessité d'action immédiate, mais il y a de très belles choses quand même qui sont en place avec une véritable réduction.
Même vision sur le problématique mondiale.
Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, c'est sûr qu'on va aller peut-être plus loin dans la recherche de particules et peut-être aussi dans les actions qu'on va mener. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la mesure de particules, elle est vraiment mondialisée. On va peut-être être un peu plus fin, oui, comme je le disais, aller plus loin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un constat mondial et il va falloir vraiment aussi travailler là-dessus et prendre des actions aussi pour justement limiter les émissions de ces particules-là.
D'accord. Parce
que c'est vrai qu'aujourd'hui, le gaz, enfin, sur les émissions de gaz, on est quand même assez avancé, que ce soit en Europe ou même dans le monde, mais les particules sont venues, je pense, après et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des très forts impacts pour la santé.
D'accord. Une question que l'IA... On ne va pas parler de ChatGPT, hein. Mais est-ce que ça a un apport pour vos clients, vos besoins, vos développements? Est-ce que vous allez plus vite, peut-être, ou dans l'analyse des particules et peut-être de la solution Allez-y, monsieur.
Nous, on travaille beaucoup, en fait. Plus de 80% de notre recherche va dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pour de la reconnaissance de signatures. En fait, ce que fait l'IA, c'est de capter l'intelligence humaine et d'essayer d'intégrer en étant capable de gérer plus rapidement des données. C'est ce que l'on avait dans les systèmes experts il y a 30 ans. C'est ce qu'il y a eu dans les réseaux de neurones au début des années 2000. Oui. C'est exactement le même principe, sauf que les algorithmes se sont changés et sont capables. Donc, pour moi, ce n'est pas réellement de l'intelligence, c'est de l'ingestion. C'est de l'ingestion multivariée qui existe avec des algorithmes qui se sont démultipliés. Bien sûr, on l'utilise énormément pour cette reconnaissance de forme, cette reconnaissance de signature. C'est ce que j'appelle la GPSisation ou l'orthogonalisation de la mesure. Aujourd'hui, ce que l'on regarde aujourd'hui dans notre exposition, il y a des mesures en ligne qui sont des mesures relativement classiques de chromatographie, de spectroscopie. Et puis, il y a cette mesure dispersée qui, bien sûr, d'un point de vue, je dirais, coût, doit être associée à cette possibilité de dispersion et donc de passer des 200 000 euros ou des 100 000 euros à quelques milliers d'euros, mais dispersée. Comment peut-on faire ça? Eh bien, avec des capteurs qui coûtent beaucoup moins cher, avec des néphrélomètres, des capteurs optiques. Donc, on ne va pas pouvoir s'attendre à des performances techniques extrêmement élevées. Donc, pour pouvoir atteindre cette précision, on va orthogonaliser la mesure. Et c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire en utilisant l'intelligence artificielle. C'est ce que j'appelle la technique donc, de satellite. Vous avez un satellite, vous avez la France. Vous avez un deuxième satellite, vous avez Paris. Vous avez un troisième satellite, vous avez Notre-Dame. Chacun d'entre eux étant relativement flou. Mais la précision vient à l'interface de ce flou. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que vous faites le matin quand vous buvez votre café. En fait, vous le regardez. S'il est laiteux, tiens, on m'a rajouté du lait. Ensuite, vous le respirez. Et puis ensuite, vous le buvez. On dit, tiens, on m'a encore rajouté du sucre. Donc, vous contextualisez tout ça. Et puis, si vous travaillez chez Café Grand-Mère, vous allez dire, ah ben, c'est un café du nord du Vietnam, robusta, trop torréfié. Eh bien, cette banque de données que vous avez, qui est orthogonalise par nos sens, eh bien on fait la même chose sur les traitements de données. Donc on va récupérer les données de particules, les données de gaz, les données multiples, les orthogonaliser de façon à pouvoir avoir une signature unique du site et déclencher la remédiation qui est adaptée. Voilà.
Alors, même constat que vous apporte l'IA, si vous l'utilisez d'ailleurs.
Alors nous, concrètement, sur les solutions, on ne l'utilise pas. Par contre, nos clients vont l'utiliser pour justement faire de la cartographie. Et ça, c'est vraiment très important puisque dans les stations, il n'y a pas que de la mesure de particules. On va aussi avoir des anémomètres donc pour mesurer la vitesse du vent et la direction du vent. On va avoir différents aussi d'analyseurs, donc de différents gaz, de différents composés. Et ça va permettre de faire justement de la cartographie et de pouvoir faire des prédictions aussi c'est comme ça aussi un petit peu le niveau météorologique. On va avoir des prédictions donc sur les principales zones de pollution et justement sur les principaux polluants et principaux pollueurs aussi. Donc ça va vraiment permettre aussi de pouvoir regarder les actions à mettre en place et c'est utilisé vraiment par le réseau Atmo au niveau français et même au niveau européen avec l'ICOS. Donc c'est des choses qui sont très utilisées et de plus en plus pour pouvoir éviter d'avoir aussi un nombre de stations qui sont très importants. Là, on essaye de travailler, de faire une vision la plus large possible. Donc on va mettre une station à un endroit qui est clé pour essayer après de pouvoir avoir des mesures un petit peu de partout autour et donc d'avoir des prédictions sur l'avenir.
D'accord. Les clients, est-ce que c'est eux qui viennent vous voir en disant qu'ils ont reçu une amende de la part et qu'ils disent « Oh là là, ça me coûte cher, il va falloir que je fasse quelque chose » ou c'est vous qui allez les voir en disant ben, « Vous polluez beaucoup et il va falloir faire quelque chose, sinon vous allez payer une amende ». Comment ça se passe?
On est toujours entre le marteau et l'enclume. Voilà. Ça dépend de quel côté de la table on se trouve, du pollueur ou du pollué. Mmh. Et donc, ça dépend effectivement du client. La plupart du temps et aujourd'hui, dans les politiques RSE, qui sont beaucoup plus qu'un gadget que l'on ajoute en fin de rapport annuel. Aujourd'hui, il y a une véritable volonté sous, je dirais, la pression du changement climatique, mais aussi des propres collaborateurs qui ont besoin d'une mission et d'une société à mission. C'était définitivement intégré dans l'ADN des plus grandes et des plus petites sociétés. Aujourd'hui, il y a des efforts extrêmement importants qui sont mis en place pour diminuer cela dans les process, au quotidien. Donc, non, je crois qu'aujourd'hui, c'est les entreprises qui viennent se positionner en se disant, mais est-ce que je peux mieux protéger mes collaborateurs, avoir un impact climatique inférieur, une empreinte énergétique et décarbonée? Donc la démarche est proactive.
Un label sur le site internet, ça fait toujours du bien
pour l'entreprise. Mais aujourd'hui, les labels sont quand même basés aussi sur des mesures. Oui, et donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer. Donc, nécessité d'aller de l'audit, qui est une extrapolation sur 365 jours en disant j'arrive, et j'adore les auditeurs qui peuvent être dans la salle, les SGS, les APAV, etc. Je suis complètement d'accord. Mais je suis complètement aligné parce qu'il y a une expertise forte de laboratoire. Maintenant, comment quantifier cette empreinte carbone, cette empreinte particulière sur les 365 jours de l'année? Eh bien, il faut les mesurer. Voilà, donc l'idée, elle est un peu là.
Vous voulez poser une question?
Une question, il y a un paradoxe en France, donc le monde est parfait, on est meilleur que tout le monde, on est la source de toutes les vertus mondiales et on a du mal à l'exporter. Mais il y a une question bête, quand on lit les rapports de l'ADEME sur la politique bois-chaleur en France, j'ai trouvé, c'est public, des chiffres extraordinaires. Les centrales, il y a 7900 sites de plus de 50 kW, pour une puissance installée de 8500 MW, qui ont des contraintes fortes pour les contraintes de particules fines et autres. Mmh. Puis à côté de ça, il y a 7 millions, 8 millions de poêles à bois, comme on dit, qui ne sont absolument pas contrôlés. J'ai un ami qui habite à côté de Saclay. Il dit, quand je sors de mon enclos moi sécurisé de maison, je ne sais pas quoi, Kaufmann, je ne peux pas respirer. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'expliquer c'est une frénésie. Le rapport actuel de 2022, c'est une frénésie. La cible, la Confédération française du bois énergie, le bois brûlé dans des fours qui émettent des particules de façon
absolument
illimitée.
Absolument. Une simple image. Une cheminée ouverte chez vous, 4 heures, vous passez une soirée, 4 heures, c'est équivalent à avoir parcouru Paris-Marseille derrière un camion de diesel qui fonctionne au diesel. Voilà l'équivalence en termes de particules émises. Donc, c'est extrêmement impactant pour les habitants de la maison. Donc, poêle à bois peut-être, mais fermé. Deuxièmement, c'est un impact important sur l'atmosphère extérieure, particulièrement quand on est dans des environnements comme, encore une fois, Grenoble, ou des endroits où les vents sont plutôt dominants, sont plutôt faibles. On a effectivement une pollution atmosphérique qui demeure et qui est importante, générée par le chauffage au bois. C'est très clair.
Ça me promet.
Quand il y a un problème, il y a une solution. C'est un manque d'organisation. Il suffit de 3%, de 5% de gens organisés sur un problème précis pour changer la donne. C'est comme le poids du cerveau par rapport au reste du corps.
Il faut faire de la récupération de particules en sortie de cheminée. Mais là aussi, ça demande un investissement pour chacun d'entre nous, bien sûr.
Ah oui, ça coûte... Enfin, si je veux m'installer un insert ou un poêle à bois fermé, il faut que je rajoute un filtre.
Il faut que je rajoute effectivement un filtre qui est une espèce de venturi avec ravitation.
Bien,
ben, vous doublez le prix de la vous doublez le prix de la cheminée, oui.
D'accord.
Vous doublez le prix de la cheminée.
Juste un point avec Systec, parce qu'il n'a pas répondu à ma question sur le client.
Alors, les clients, donc nous, comme on travaille, donc on a différents types de clients, mais c'est pareil, c'est plutôt les clients qui vont venir vers nous sur le sujet des particules, puisqu'ils vont avoir des normes à respecter, que ce soit pour les normes environnementales ou même au niveau des constructeurs automobiles qui vont avoir des normes. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va quand même avoir aussi. C'est quand même bien d'aller faire de la prospection et d'aller présenter nos instruments, puisque comme on a des instruments aussi dédiés à la recherche, c'est bien d'aller les présenter. Et donc là, on a pas mal de demandes aussi en recherche, justement, pour faire pour du travail sur des particules vraiment très, très fines.
Merci. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question sur les nanoparticules. Oui. Alors, c'est un sujet assez complexe, je dirais, et il va devenir d'actualité, il va prendre une importance assez importante d'un point de vue sanitaire. Et il y a un problème au niveau du prélèvement des nanoparticules pour qu'ils soient reproductibles et tout. Et là, il y a une difficulté. Enfin, il y a beaucoup de... Alors, l'instrumentation la mesure, l'appareil mesure, il n'y a pas de souci. L'erreur ne viendra pas de là. Elles viennent du prélèvement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà? Une première partie, côté prélèvement, ça, pour pas faire d'erreur. Pour les nanoparticules, hein, je parle toujours. Et puis, sur votre principe de mesure, comme vous faites de la condensation oui. sur une particule, vous allez un petit peu la modifier. Hein. On va être, donc, vous ne faites pas de distribution.
Non. Alors,
voilà. Non, attendez, après je vous laisserai répondre. Vous ne faites pas de distribution et donc vous donnez une valeur totale, c'est ça ?
Oui, une valeur en nombre, oui. En nombre voilà. de particules.
Ouais, un nombre de particules. Donc voilà. Et je m'interroge sur la. Alors tout évolue énormément dans les nanoparticules. La normalisation, je me pose des questions.
Oui.
Quel principe de mesure
va être retenu ?
Va être retenu.
D'accord.
Est-ce celui-là ? Alors, il n'y a pas que dans l'émission à l'air ambiant, hein, on en trouve dans l'eau, il y a plein de fabricants qui essaient de, y compris avec des méthodes optiques où on coupe des ATF, etc., où on fait des reconnaissances de forme et puis on vient faire du traitement d'image.
Oui.
Voilà. D'après vous, vers quoi on va aller ? Voilà, alors, deux questions en
ouais,
fait.
Ouais.
Merci.
Alors, pour tout ce qui est prélèvement, en fait, là, c'est aujourd'hui, comme on travaille principalement avec le réseau Atmo, donc pour tout ce qui est prélèvement dans l'air, eux, ils ont déjà des méthodes de prélèvement qu'ils ont mis en commun avec tous les membres du réseau Atmo. Donc, principalement, là, ça va être du pompage. Donc, on va avoir une pompe à vide qui va venir donc, nous permettre de prélever dans des sortes de petites cheminées, enfin, des cheminées pour avoir une. Enfin, un prélèvement qui soit omnidirectionnel, on va dire. Et après, donc là, ça va dépendre. Il va y avoir, en fonction donc de l'analyseur en question, enfin du compteur en question, on va avoir différents débits pour justement essayer d'avoir le maximum de comptage et ne pas avoir de problème, on va dire, donc de comptage, de vraiment compter le nombre de particules qui arrivent dans l'instrument. C'est bon. Donc, après, là, il va falloir utiliser des matériaux.
Le souci, c'est en fait pour avoir un prélèvement très reproductible, pour que la méthode soit reproductible. Et en fait, toute l'erreur, elle va se faire sur le prélèvement. Dans les nanoparticules, hein, je parle oui. les plus petites, hein, vraiment. Et vous avez les gens qui mettent des procédés également, alors avec des prélèvements sur des filtres, alors pas des filtres en cellulose, etc., des filtres en silice. Ouais. Et puis qui viennent faire de l'analyse d'image. Alors pareil, la méthode d'analyse d'image, elle est bonne, hein, elle est précise. Mais le souci, c'est le prélèvement sur le filtre, c'est tout ça.
Bah, c'est vrai que le problème du prélèvement sur filtre, c'est qu'aussi, enfin, on va pas avoir des mesures qui seront en direct. On va avoir déjà des mesures qui seront reportées. Donc c'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de faire des mesures en laboratoire. Alors que quand on fait des prélèvements directs, là, c'est sûr que c'est compliqué puisque les particules fines, les nanoparticules, elles vont pouvoir aussi, donc, on va pouvoir les perdre lors du prélèvement. C'est pour ça qu'il va falloir utiliser des matériaux assez spécifiques aussi pour pas avoir donc de retenue donc de ces particules-là. Ça, après, il y a différents matériaux qui peuvent être utilisés, donc des matériaux qui vont être traités justement pour éviter de perdre ces particules.
Compléter, monsieur Mifsud, là-dessus ou...
Non. Nous, on a un prélèvement direct, effectivement, avec un système chauffé pour éviter la surévaluation, notamment par les gouttelettes qui peuvent être présentes, qui s'agglomèrent effectivement aux particules et qui vont donc surestimer les tailles de ces particules. Donc, nous, au contraire, on veut désorber et faire en sorte qu'il y ait le moins de solvants aqueux ou autres dans la mesure pour pouvoir revenir à la taille de la particule elle-même. Mais je crois que vous avez totalement raison. D'ailleurs, dans le cas des nanoparticules et dans le cas de toute technique chromatographique ou autre, l'échantillonnage est clé avant la mesure. On a beau avoir une mesure à 0,999, si l'échantillonnage il est au pourcent, c'est pas la peine de... Non, je voulais juste parler de cas d'usage, peut-être si ça vous dit de montrer. Je vais peut-être récupérer, si ça vous embête pas là.
Oui.
Merci beaucoup.
Et puis après, on passe à ça sur les cas d'usage.
Si vous avez des
clients ou des sections d'activité. Voilà.
Donc, j'avais préparé, effectivement, en revenant à la dernière diapositive, donc sur les systèmes, on en avait parlé de triangulation pour revenir sur les sources. Ça, c'est un port qui émet toute une série de gaz et de particules à Ningbo. Nous avons 60 systèmes installés sur le port de Ningbo. Mais la remédiation derrière va être que sur les ports, les rampes de brumisation, de façon à pouvoir les déclencher en temps réel et rabattre les particules qui peuvent dépasser un niveau supérieur Donc, les particules, donc, on les connaît effectivement. L'important, c'est de descendre dans celles qui vont non seulement colmater les alvéoles, mais surtout provoquer une lésion qui va finir par un cancer. Alors, voilà ce qu'on a développé récemment, parce que là aussi, l'objectif, il est de se rapprocher de la source et de la mesure. Que se passe-t-il sur un chantier de construction ? Eh bien, le compagnon exposé n'est pas toujours le compagnon qui travaille sur le sillage du béton, la percussion du mur. Ça peut être le compagnon qui est à 10 mètres, tout simplement parce qu'il y a une cavitation naturelle qui lui amène les nanoparticules. Et donc, mon obsession, pour revenir en fait à votre point, qui est essayons d'éviter le prélèvement, essayons de nous rapprocher de la source. La source chez le compagnon, c'est les voies respiratoires. Et donc, on a décidé de mettre en place un système qui va s'accrocher tout proche des voies respiratoires et qui va permettre de mesurer et de quantifier et d'identifier surtout la silice alvéolaire. Donc, dans un nuage de poussière, chacun, même si on n'est pas compagnon, on a déjà vu des chantiers, vous avez le trafic des camions, etc. Mais l'important, c'est d'aller piéger dans ce nuage de poussière, d'où on revient à l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, c'est d'aller sortir de cet amalgame de poussière la silice cristalline alvéolaire, qui, elle, est carcinogénique, encore une fois, depuis l'arrêté de janvier 2021. Et donc, on va utiliser ce capteur, le système est porté par le compagnon, et vous avez proche des voies respiratoires un système d'analyse en continu, toujours basé sur la même technologie qui est une technologie à balayage, mais qui va permettre, grâce à la modulation du laser que nous avons breveté, d'avoir une empreinte. Cette empreinte va être spécifique de la silice alvéolaire et va permettre ainsi de remonter une donnée en ligne. Alors le système se porte à la ceinture, permet d'avoir un positionnement du compagnon et une alarme, puisque la partie haute de la tête est proche des voies respiratoires. Et donc, cette tête est interchangeable, donc on peut faire de la mesure de gaz, de la mesure liquide, de la mesure environnementale, mais surtout, là aussi, reconnaissance de forme, on a un micro qui va permettre de reconnaître le gémissement, le cri d'appel à l'aide. Donc, on va essayer d'aider le compagnon, non seulement dans ce qu'il respire, mais aussi dans sa contextualisation du danger auquel il peut être exposé, comme une chute ou autre. Voilà.
Et donc, s'il y a une trop forte condensation, il y a une alerte.
Vous avez une alarme immédiatement qui est reçue par le compagnon et par le chef de chantier, qui lui localise effectivement le compagnon et qui va lui rappeler soit de s'éloigner, soit de porter un masque spécifique. Parce qu'effectivement, s'il n'a pas, il ne travaille pas sur l'action qui va générer ces nanoparticules, cette silice alvéolaire, qui est encore une fois le découpage du béton, la percussion du ciment, eh bien, vous n'y pensez pas à porter un masque. Voilà. Donc, c'est une nouvelle façon d'approcher l'identification de la silice.
Vous travaillez pour un grand cimentier, non ? Français ?
On a eu plusieurs...
Il a changé de nom maintenant, mais bon, peu importe.
Non, mais on travaille avec des grands constructeurs, notamment sur le Grand Paris, que ce soit Bouygues, oui, ou Fayette ou Vinci, qui nous ont commandé sur ce premier trimestre plusieurs centaines d'unités. Ouais.
D'accord. Voilà. Monsieur Chaumel, peut-être pas le nom d'un client, mais peut-être un secteur d'activité dans lequel vos solutions ont trouvé la...
Je ne vais pas forcément avoir besoin de présentation.
Ah, d'accord, ça marche.
Mais c'est vrai que, je vais parler peut-être du secteur automobile, pas forcément des constructeurs automobiles, mais aussi de la surveillance juste des particules, par exemple dans les tunnels. Aujourd'hui, donc, dans les tunnels, on va utiliser pas mal d'analyseurs pour tout ce qui est de la mesure de gaz. Et de plus en plus, on travaille aussi sur les particules. Principalement, on travaillait sur les particules fines. Donc, on a aussi une méthode pour mesurer les particules fines. Donc là, c'est du comptage plus simple, c'est juste du comptage optique. Et donc là, on va pouvoir justement déterminer aussi la taille des différentes particules. Et de plus en plus, on travaille aussi sur les particules ultra fines, donc que ce soit dû aux poussières d'échappement ou justement aux poussières de frein. Donc là, il y a des normes qui ont évolué un petit peu. On est passé donc de 23 nanomètres à 10 nanomètres sur les prochaines normes qui vont arriver. Donc il y a des demandes là-dessus, sur ce sujet-là. Et on a aussi beaucoup de demandes donc au niveau... un petit peu plus donc dans la recherche pour savoir donc qu'est-ce qui dans les sources intérieures, donc par exemple dans nos sources dans notre maison, qu'est-ce qui pourrait émettre des particules. Donc on a par exemple tout ce qui est lorsqu'on fait de la cuisson, oui, ou lorsqu'on fait des nettoyages, donc l'utilisation de solvants, qu'est-ce qu'on va dégager et est-ce que les particules pourraient être nocives donc pour la santé. Donc les résultats sont clairement oui, on a des choses qui sont assez importantes même chez nous. Et donc après, on a aussi des mesures un peu plus, on va dire, qui sont un peu plus larges, par exemple sur le rayonnement donc solaire et le rayonnement de, enfin aussi donc dû à l'ozone. Donc voilà, c'est pas mal de recherches aussi. Donc c'est différents types de clients. Après, bien sûr, bah, comme on en a parlé un petit peu, le réseau Atmo, c'est vraiment pour la particule dans l'air ambiant.
D'accord. Moi, je n'ai pas tellement d'autres questions. J'ai essayé de faire le tour. Si vous avez des questions, eh ben, allons-y. J'arrive.
Il manque un avis. Oui, je trouve votre système très bien. Hein. Un portable, avec surtout, l'avantage, c'est qu'il donne la mesure en temps réel, en fait. Et tout ce qui existe, c'est des petits préleveurs, des petites pompes portatives, voilà. Et la mesure est différée. Exemple, l'amiante. Vous avez tous les gens qui ils sont exposés à l'amiante. Ils ont leur pompe et puis après, bon. Mais par contre, c'est normalisé. La mesure est différée. Absolument. Là, vous avez le risque en temps réel, quoi. Donc, vous pouvez aller sur le marché amiante. Hein. Mais c'est normalisé. Donc, voilà, ils vous empêcheront, voilà, en temps réel. Voilà.
Alors, aujourd'hui,
c'est ça un peu le
Le système est validé. Le système vient d'être validé par l'ITGA. Qui est
l'ITGA.
Oui, l'ITGA vient de valider le système. Maintenant, l'ITGA demande une VLP 8 heures. Donc, effectivement, nous fournissons des données en temps réel. Mais la norme qui est retenue par le chef de chantier, c'est l'exposition du compagnon sur les 8 heures. Et maintenant, la véritable question qu'il faut se poser au-delà, qui est un peu, je vais utiliser un mot philosophique, mais c'est est-ce que c'est le dépassement ponctuel du maximum, ou est-ce que c'est la VLP qui est vraiment le vrai souci? Eh bien, moi, je pense que c'est l'exposition ponctuelle qui est importante. On peut avoir une VLP tout à fait correcte et avoir été exposé pendant 2 heures sur les 8 heures à des concentrations extrêmes. Nous, on fournit les deux au chef de chantier décidé. Voilà.
VLP, moi, je ne suis pas...
C'est la valeur moyenne sur les 8 heures. En fait, on moyennise sur les 8 heures et il ne faut pas dépasser pendant une certaine norme. Mais on peut très bien avoir un pic extrêmement important. Et puis le compagnon se trouvant sur une autre partie du chantier pendant les 6 heures restantes, on a finalement une moyenne qui rentre dans la norme. Mais il a quand même été très fortement exposé pendant l'heure encore.
Juste petit... Ah, j'arrive.
Bonjour. Moi, je suis intéressé par votre technique de mesure. Qu'est-ce que vous mesurez? Comment vous avez une garantie de vos mesures? Parce que, en fait, moi, je travaille sur des systèmes en laboratoire. C'est assez lourd. En portable, je suis un peu surpris. Donc, du coup, j'ai plein de questions là-dessus.
Alors, rassurez-vous, les résultats sont très mauvais.
D'accord, bah, c'est parfait.
Parce qu'effectivement, on ne peut pas comparer un R2 de 0,99 que j'ai au labo avec un système portable. D'abord parce qu'effectivement, et vous avez totalement raison, la norme est basée sur la gravimétrie aujourd'hui. Et donc, ce que nous faisons, pour revenir à la technique, c'est une diffraction laser. Donc, la masse volumique n'est pas prise en compte. Donc, on peut très bien avoir pour la même taille une particule de fer, comme vous le mentionnez, venant des freins dans le métro, et un aérosol biologique qui peut être extrêmement léger en termes de masse volumique. Par contre, la taille peut être la même. Donc, il y a effectivement une limitation dans cette technique, d'où l'intervention de l'intelligence artificielle qui va aller travailler sur deux aspects. Le premier, c'est la répartition des tailles, qui va commencer à donner une information extrêmement importante, parce que effectivement, on ne va pas avoir la même chose sur des acariens ou du pollen, ou du pollen d'ambrosie versus de l'inoki. Donc, on va avoir de la répartition de taille qui peut être un élément. Donc, on revient à l'orthogonalisation de la mesure.
Deuxième. Excusez-moi, justement, je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire, orthogonalisation.
La mesure, c'est-à-dire, en fait, prendre une mesure floue et rajouter une autre mesure floue.
Je comprends optiquement, mais au niveau intelligence artificielle, je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Ce que l'on fait là, c'est qu'on met le laser en modulation. C'est-à-dire que le laser ne va plus vous donner uniquement des données monovariées, type PM1, 2, 5 et 10. Il va vous fournir toute une multitude de points à partir du PM03, voire 01, jusqu'à du PM40. Donc, on va créer un espèce de data lake qui est en fait des microbeads, des plages de mesures qui sont extrêmement fines, les unes à côté des autres, ce qui va vous fournir... Vous connaissez l'infrarouge proche, peut-être, avec toutes les longueurs d'onde. Et donc, on va avoir une enveloppe.
Une distribution, en fait.
C'est exactement cela. Une distribution de taille, mais qui est beaucoup plus fine, avec une résolution beaucoup plus fine. Cette distribution va nous donner une première information, qui est la distribution, encore une fois, de la silice n'est pas la distribution d'un plâtre pulvérisé ou d'un ciment. Le deuxième élément, c'est la forme de la particule. Cette forme de particule, on peut très bien avoir la même taille pour une particule lenticulaire ou pour une particule de ce type-là, qui est cristallin. Comment avoir cette forme ? Eh bien, le brevet que nous avons permet d'avoir une analyse de la forme basée sur une analyse optique de deux lasers et sur les franges que l'on obtient de diffraction et non plus sur un seul laser qui est simplement sur une monovariée. Donc, on va obtenir du multivarié par deux aspects. C'est pour ça que j'appelle un peu...
Un multi-angle, en fait.
C'est exactement ça. Ouais, okay. Donc, on a un premier angle qui est de la diffraction simple, qui me donne une distribution par une approche mathématique permettant une résolution plus simple, plus forte. Deuxième angle, je prends un deuxième laser qui va me donner cette fois des diffractions et des franges de Fresnel, enfin des trucs comme ça, qui me permet de dire, cette particule pour 0,1 micron, elle est lenticulaire ou elle est cristalline. La donnée est floue. La donnée est floue. Il ne me donne pas des choses absolument que l'on peut avoir sur du RX, sur de l'EDAX, etc. Mais en ajoutant ces flous, on arrive à une certaine précision qui est suffisante pour que l'ITGA le valide et dire effectivement, vous avez une précision sur la mesure de la silice alvéolaire dans un environnement bruité qui est suffisant pour alarmer le compagnon et mesurer ses VLT.
Et du coup, la plage de mesure et les écarts types, c'est quoi alors du coup ?
Écoutez, je suis content quand j'ai du 10%.
D'accord. Voilà. Et la plage de mesure ?
Alors, c'est du 0,1 à 40 microns.
0,1 à 40 microns. Ouais. D'accord, ok. Ok. Voilà. Vous savez que au niveau des nanoparticules, je reviens à la question de monsieur, c'est là où c'est le plus dangereux en fait. Hein. Ah bah. Et donc du coup, vous êtes enfin la notion de nanoparticules, c'est en dessous 100 nanomètres.
Alors si vous voulez, ma régression linéaire, j'ai ça en déviation standard à 40 microns et j'ai ça.
Ben bah oui, c'est ça. Mais évidemment, oui, évidemment.
Et donc je fais passer ma PLS par là où ça fait le moins mal.
Je ne suis pas en train de critiquer votre technique. Hein. C'est juste pour vous dire qu'il y a des limites à votre technologie. Quoi.
Absolument. C'est pour ça qu'il ne faut pas présenter les objets connectés comme étant des concurrents des systèmes d'analyse. Au contraire, c'est des systèmes qui permettent de créer des alarmes, voire déclencher non seulement de la remédiation, mais du prélèvement. Parce que ça peut se passer le dimanche matin à 2h du matin. Et je ne suis pas là avec mon système de prélèvement. Et donc, ces éléments-là, c'est des systèmes d'alarme, de points d'inflexion, qui permettent de se dire, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il semble que ça soit dans le domaine d'alarme que je cherche. On n'a pas la précision analytique. La précision analytique, elle va venir être compensée par la distribution statistique de la mesure. Okay. Voilà l'idée, d'accord. C'est de se dire, j'ai plus un seul compagnon qui en a un, mais j'ai 100 compagnons sur mon chantier.
Ok.
Voilà, vous voyez l'idée,
oui,
c'est,
oui, très bien.
Je viens pas du tout me concurrencer avec les mesures qui restent royalement la référence. L'idée, c'est comment je peux mieux cartographier, créer des alarmes, avoir une espèce de topographie analytique, vous voyez, et donc je déclenche mon point d'inflexion et un prélèvement. Voilà.
Ok, hein, merci.
Je vous en prie. Et d'ailleurs, juste un cas, c'est un cas justement à Nankin, où on est très très présent en Chine, vous avez ici une société qui génère énormément de particules. Elle fait production d'énergie basée sur du charbon. D'accord ? Vous voyez qu'il y a des cheminées qui sont immenses, qui essayent de disperser au mieux, sauf que tous les voisins les attaquent régulièrement en disant « c'est vous ». Regardez la carte, vous voyez, ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a autour ? Une usine de plâtre, traitement des eaux usées, une usine de peinture, du polyuréthane, du plastique. Donc chacun d'entre eux, je pense, ont des impacts environnementaux. Eh bien, d'où viennent mes particules ? D'où viennent mes solutions ? Donc, on a mis toute une série de réseaux, de systèmes de mesures qui mesurent des choses assez classiques, du NO2, de l'ozone, du sulfure, etc. Tout ça, c'est très intéressant. Mais est-ce que ça dit d'où ça vient ? Non, ça ne dit pas. Alors, on va utiliser la triangulation, modélisation et dispersion, mais on va utiliser la reconnaissance de forme qui va permettre, donc je passe rapidement, pour dire, effectivement, cette journée-là qui était le 6 septembre 2021, alors que deux jours avant, il n'y avait rien, comment se fait-il que là, je suis d'un niveau critique ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est mes voisins ? Eh bien, on va faire de la reconnaissance d'empreintes, de la reconnaissance particulière et de signatures qui va permettre, grâce au traitement de données derrière, de remonter en disant « les événements, ils viennent de l'usine de plastique, l'usine de coating, l'usine de plâtre, l'usine de polyuréthane ou la station d'épuration. » Donc on a un traitement, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une analyse en composantes principales des vecteurs multivariés. C'est ce que j'appelle la GPSisation, c'est-à-dire que là-dedans, il y a non seulement les particules, mais il y a aussi les gaz. On va associer tout ça pour avoir une reconnaissance particulière de la source. Je ne sais pas si je suis clair dans la... Mais ça permet de remonter à la source et dire ce jour-là, là, particule, ce n'était pas toi, c'était l'usine de plâtre. Chacun des points sont des points d'analyse qui permettent de contextualiser, de clusteriser les sources. Voilà.
Bon, pas d'autres questions parce qu'on est à 5 minutes de la fin. Je conclue. Peut-être où sont vos stands ? Encore, si les gens veulent vous voir.
Absolument, avec plaisir.
Il est où votre stand ?
Par tout, là-bas. Tout droit, ouais. Par là.
Systec, il n'est pas loin non plus. Hein. Il est là.
Juste on
là.
Est juste ici. Là.
Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Il me manque un invité, mais bon, c'est comme ça. À bientôt.